tracer ensemble vous convie à partager un moment de culte dans le temple protestant de Saint-Gaudens. À partir d'un passage dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 58, les versets 4 à 10, le pasteur Erizu Rajakoba évoquera la pratique religieuse locale et son devenir.
Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer, Jésus. T'adorer, te louer, Seigneur.
Demandons à Dieu son esprit, afin qu'il nous éclaire le cœur et l'intelligence. Nous prions. Seigneur notre Dieu, tu t'es abaissé afin de nous élever. Tu es venu à nous afin que nous allions à toi. Tu as été humain comme nous, afin de nous faire participer à la vie éternelle. Alors nous voici assemblés en présence de ce mystère et de ce miracle pour t'adorer, pour te louer, pour annoncer et recevoir ta parole. Par ton Saint-Esprit, montre-nous et ouvre-nous le chemin qui conduit à toi, afin que nos yeux s'ouvrent à ta lumière et que nous devenions tes témoins pour toute notre vie. Amen. Il y a un passage dans le livre du prophète Ésaïe qui nous est proposé pour aujourd'hui. Ésaïe 58, les versets 4 à 10. Quand vous jeûnez, ce ne sont que querelles et brouilles, méchants coups de poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour pour être entendu d'en haut. Est-ce là le jeûne que je préconise, un jour où l'homme se prive? Le jeûne que je préconise, n'est-ce pas plutôt ceci? Détacher les chaînes de la méchanceté, dénouer les liens du joug, renvoyer libre ceux qu'on écrase et rompre tout joug. Ne s'agit-il pas de partager ton pain avec celui qui a faim et de ramener à la maison les pauvres sans abri? De couvrir celui que tu vois nu et de ne pas t'esquiver devant celui qui est ta propre chair? Alors ta lumière poindrait comme l'aurore et tu te rétablirais bien vite. Ta justice marcherait devant toi et la gloire du Seigneur serait ton arrière-garde. Alors tu appellerais et le Seigneur répondrait. Tu appellerais au secours et il dirait « Je suis là ». Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours malfaisants, si tu offres à l'affamé ce que tu désires toi-même, si tu rassasies l'affligé, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera comme le midi. Voilà cet appel que le prophète Ésaïe transmet de la part du Seigneur. Un appel qui sonne juste, nous pouvons en convenir, mais qui peut-être nous déroute un petit peu en même temps. Dans ce texte, il est question même de coups de poing et de méchanceté en même temps que l'on jeûne, c'est-à-dire on a une pratique religieuse, mais c'est une pratique religieuse qui ne nous prive pas d'être des loups les uns pour les autres. Voilà. On sent bien que ce texte sonne juste. Il est un petit peu loin de nous, mais en même temps, le fond nous intéresse. Que recherchons-nous exactement dans notre pratique religieuse ? Qu'est-ce que nous faisons lorsque nous nous rassemblons ? Nous nous rassemblons pour prier et adorer le Seigneur, mais si ce n'est pas la façon qui endigue la méchanceté et qui fait reculer les ténèbres, alors ce n'est pas la pratique religieuse que le Seigneur préconise. Voilà ce que ce texte dit en substance. Si nous le faisons voyager de son contexte où il y a peut-être de la méchanceté au sein du peuple d'Israël et qui fait parler Ésaïe, si nous interrogeons notre pratique, notre façon de vivre la foi chrétienne, est-ce que c'est une foi qui fait reculer les ténèbres parce que nous la pratiquons de façon à ce que plus de justice soit vécue au milieu des hommes? Nous aurions envie de dire « mais bien sûr ». Et même dans l'histoire de l'église locale de Saint-Gaudens, il y a plutôt une œuvre sociale au départ. C'était une terre de mission avec une action de justice sociale qui a fait naître cette église locale. Alors nous disons, mais bien sûr que c'est ça la pratique religieuse. Est-ce que être lumière du monde et celle de la terre, justement, ce n'est pas aussi s'épanouir socialement, être acteur de justice dans la société, puis s'épanouir économiquement en tant que chrétien pour pouvoir être dans l'entraide et dans les gestes de charité? C'est parce que nous sommes bien dans la vie que nous pouvons aussi manifester l'amour de Dieu dans nos actions d'entraide. Alors on se dit que ce texte sonne juste. Il interroge notre pratique religieuse, mais comment la remettre en question véritablement? Et c'est là que je vous inviterai peut-être à entendre comment Paul s'exprime lorsqu'il écrit aux Corinthiens, dans le chapitre 2 de la première lettre. J'ai l'impression que les Corinthiens sont en meilleure situation que ce que nous pourrions croire de Saint-Gaudens, mais quand même à une église qui paraît foisonnante, en tout cas lorsqu'on lit la lettre aux Corinthiens. Paul écrit ceci dans le deuxième chapitre 2, les versets 1 à 5. Pour ma part, mes frères, lorsque je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis venu vous annoncer le mystère de Dieu. Car j'ai jugé bon parmi vous de ne rien savoir d'autre que Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais avec vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Ma parole et ma proclamation n'avaient rien des discours persuasifs de la sagesse. C'était une démonstration d'esprit, de puissance pour que votre foi ne soit pas en la sagesse des humains, mais en la puissance de Dieu. Il me semble que cette lettre de Paul aux Corinthiens nous donne une piste pour savoir comment briller. Je parlais tout à l'heure de ce qui pourrait nous préoccuper en tant qu'église locale. Comment faire pour ne pas disparaître? Comment faire pour être lumière du monde? Comment faire pour être église de Jésus-Christ? Pas juste une église qui essaye de fonctionner. Eh bien, dans cette lettre où Paul s'adresse à une église qui semble avoir beaucoup, il dit, même si vous avez beaucoup, je ne veux savoir qu'une chose parmi vous. Et je n'ai voulu savoir que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Qu'est-ce que ça veut dire Jésus-Christ crucifié? À cause de la suite, on imagine qu'il faut imaginer Jésus-Christ dans un grand état de faiblesse. Je ne veux savoir parmi vous que Jésus-Christ, dans cet état de faiblesse de la personne livrée aux méchants, crucifié, livré aux moqueries, et qui pourtant au moment de sa mort, dit « Tout est accompli ». Le paradoxe de voir Jésus crucifié, la faiblesse dans sa plus grande, dans la meilleure expression de la faiblesse, c'est que c'est là aussi que Dieu montre sa puissance. Alors que Jésus est crucifié, c'est à ce moment-là que sont dénoncées toutes les autorités et les puissances de méchanceté qui asservissent le monde. Et Paul dit, Jésus crucifié, c'est ce qui suffit pour qu'une église vive. Jésus crucifié, c'est ce qui suffit pour qu'une église rayonne de l'amour de Dieu. Alors oui, comment brillons-nous? Peut-être que nous ne pouvons pas briller avec des éléments qui font partie de ce monde, des critères qui parleraient de prestige, de grand nombre, de budget mirobolant. Qu'est-ce qui fait qu'une église brille? Eh bien, nous brillons parce que nous sommes comme des brebis au milieu des loups. Et notre présence atteste par que les ténèbres ne sont plus ténèbres. Par notre présence, les ténèbres brilleront comme le midi. Voilà ce que disaient les paroles d'Ésaïe. Et notre présence, nous disons que les ténèbres ne régneront pas toujours. Mais plus que ça, en fait, nous attestons que les ténèbres sont déjà vaincues à la croix de Jésus-Christ, juste par notre présence. Et puis nous brillons aussi d'être en bénédiction pour les peuples, avec notre parole qui est désormais ajustée à la parole créatrice. Quand notre oui est oui, quand notre non est non. Sans compromission, une parole qui fait la lumière. Si notre parole est ajustée sur la parole créatrice, alors elle peut être de la même efficacité que quand Dieu dit que la lumière soit. Nos paroles peuvent mettre la lumière sur des situations chaotiques. Et nous brillons en Christ d'être des créations nouvelles, puisque nous sommes enfants bien-aimés de Dieu. Alors nous pouvons être bien aimants à notre tour. Nous pouvons être bien aimants à notre tour, livrés au monde de la même façon que Jésus était livré aux hommes, peut-être avec des craintes et des tremblements comme ce que l'apôtre Paul décrit dans sa prédication à Corinthe. Peut-être parlons-nous et proclamons-nous avec crainte et tremblement, mais si nous sommes tournés vers le Seigneur, en fait, c'est lui qui nous confirme que nous sommes ses enfants. Et c'est lui qui fait briller sur nous son visage, si bien que nous pouvons nous livrer au monde sans craindre de perdre de nous-mêmes. Il y a peut-être des incertitudes à vue humaine sur la vie de l'Église locale, mais au vu de Dieu, il y a cette parole que Jésus affirme, « Vous êtes sel de la terre, vous êtes lumière du monde, et cette lumière, c'est Jésus qui la donne, afin que vous puissiez la refléter. » Puissions-nous être des reflets fidèles et joyeux de l'amour de Dieu. Amen.